ICE. La manière dont il déploie cette force, justement, ICE, fait polémique sur le fait que c'est pas vraiment démocratique du tout et qu'il y a juste des kidnappings de personnes sans papier qui n'ont pas ensuite le droit de revoir leur famille, etc.
Bonjour à toutes et à tous, quelle joie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Zoom Zoom Zen. 2 heures chaque après-midi pour décrypter notre époque à travers ses mots, ses expressions et parfois même ses sigles. Aujourd'hui, un sigle qui a fait vivre un douloureux ascenseur émotionnel à Cyril Lacarrière, notre rédacteur en chef boomer, puisqu'il s'est d'abord exclamé « Ah, ICE, j'adore cette chanson !» Elle passait au Why Not de Ponto Combo le soir de mes 30 ans, en 1990. J'adorais ce club, même si c'était une boîte un peu éclectique, hein, parce que autant j'en ai levé de la Corinne, de la Séverine, de la Mallory, mais un soir, dans la 205, j'ai ramené une Nathalie qui en fait était un Bernard. Si vous voyez ce que je veux dire. Oui, on voit qu'on lui a dit en cœur pour couper court à cette embarrassante séquence souvenir. Cyril, tu n'y es pas du tout. ICE n'a rien à voir avec Vanilla ICE, ton rappeur préféré. C'est le nom de la police américaine anti-immigration. Et là, soudain, je vois l'œil de mon Cyril s'illuminer. Lui, qui suite à un choc traumatique, avait oublié ce qu'il avait fait entre 2002 et 2009, avant de se réveiller chef du portique de sécurité de l'ambassade américaine à Paris, se souvient enfin. Il traquait le migrant dans le sud du Texas avec ses copains de la ICE. Chaque nuit, il arpentait des kilomètres de barbelés avec son Colt et sa Maglite. Parfois, il tombait sur des Mexicains, mais comment savoir si c'était vraiment des Mexicains ? Hey, toi avec ton sombrero, viens là ! Manon, mais qu'est-ce que tu fous là ? Alors évidemment, depuis 2002, l'agence ICE s'est considérablement renforcée. Elle est désormais le jouet de Donald Trump avec des conséquences qu'on voit notamment en Californie où ceux qui ne sont pas en règle vivent désormais dans la terreur, de véritables traques aux migrants étant organisées. Jusqu'où cela peut-il aller ? Le film Civil War n'était-il finalement pas de la science-fiction, mais de l'anticipation ? Dans le doute, Cyril recharge son Colt. Zoom zoom zen, c'est parti.
C'est plus sûr.
Zoom zoom zen. Mathieu Noël.
Ketevan Gorgestani, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. À nouveau, vous êtes journaliste spécialiste des questions internationales pour France 4 et ancienne correspondante.
24.
J'ai dit France 4. Oui, parce que c'est France 24, effectivement, c'est plus dans vos cordes. Ancienne correspondante à la Maison Blanche. On vous avait reçu en septembre pour nous parler du Project 2025 et qui devait servir d'ailleurs de feuille de route à Donald Trump pour son second mandat. C'était avant son élection. Nous y voilà. On vous reçoit aujourd'hui pour en quelque sorte la mise en application de cette feuille de route puisqu'on va parler de sa politique migratoire et plus particulièrement du rôle de cette police fédérale de l'immigration, la ICE. Juste le temps de vous présenter deux cadors de l'investigation, à commencer par Manon Mariani, qui prépare cet été un reportage embedded, comme on dit, dont le titre provisoire, un peu racoleur mais efficace, Mexique, sexe, drogue et tequila, mon été au cœur des cartels, laisse entrevoir qu'au nom de la liberté d'informer, elle prendra tous les risques. En tout cas, sa valise est prête, 50 AirTags pour qu'on puisse la retrouver, et 5 sombreros pour, je cite, passer inaperçu. Bonjour Manon.
Bonjour à tous, et je vais goûter du mezcal aussi pour être dans la...
Diversifié, pas seulement de la tequila, c'est bien varié les plaisirs.
Voilà.
En attendant cette enquête de terrain qui fera du bruit, vous nous présentez l'autre personne à suivre sur ICE.
Le gouverneur de Californie qui prend position contre Donald Trump, certains démocrates le voient déjà comme le futur candidat à la Maison Blanche en 2028.
De l'autre côté de la table, lui non plus n'a pas à rougir devant vous, Ketevan. Lui aussi c'est un as de l'investigation puisque je rappelle que son enquête sur le shérif Klein dans la Sarthe.
Bonjour, je suis le shérif Klein, plus connu sous le nom de shérif sartois sur TikTok avec 15 000 abonnés.
Lui avait valu le prix Albert Melun. C'est comme le prix Albert Londres, mais décerné à Melun. Quentin, c'est donc...
Il a accroché dans mon salon.
Évidemment, j'espère bien, j'aurais fait de même.
Évidemment.
C'est auréolé de ce prestigieux prix que vous êtes porté à la rencontre des passants. Alors, le ICE, ça les fait flipper ou bien comme Cyril, ils pensent que c'est bien beau l'humanisme, mais un pays doit être tenu.
Eh bien, un peu des deux, Mathieu. J'ai eu 3 visions différentes et les 3 racontent quelque chose de l'époque qui change, comme un tournant qui vient des US, mais qui pourrait très bien un jour arriver chez nous.
Réjouissant. Vers 16h30, l'immigration n'est pas une chance, nous rappelait à juste titre Bruno Retailleau. Un sage rappel à l'ordre pour nous autres rêveurs gauchistes du service public. Le Zoom Zoom Test sera d'ailleurs l'occasion d'évoquer les fun facts de l'immigration, les histoires, et aussi les plus belles règles, les plus farfelues de l'immigration. La phrase était mal écrite. D'où ce bug, elle n'était pas française, elle n'était rien du tout. Juste avant 17h, un fin spécialiste de la politique migratoire américaine, GC, nous rejoindra. Après 17h, restez avec nous, on vous fera faire la visite du plus grand cinéma d'Europe, le plus fréquenté au monde, l'UGC des Halles à Paris. Voilà, là aussi je peux te dire que des Séverines, des Coralie. Oui, merci Cyril, merci. Mais d'abord, Ketevan Gorgestani, pour qu'on comprenne bien cette ICE, cette politique de l'immigration, cette police de l'immigration aux États-Unis, c'est pas la marque d'un pays totalitaire. En tout cas, on a l'impression que ça prend un virage totalitaire aux États-Unis là.
Je pense que ICE en elle-même, cette police de l'immigration, n'est pas une dérive autoritaire. C'est l'utilisation qu'on en fait, parce que ICE existe depuis un bout de temps. Et ça a toujours été une police qui, alors contrairement au CPB, donc Customs and Border Patrol, n'opère pas vraiment à la frontière, mais opère dans les terres, dans les États, et c'est là où ils sont censés être activés et arrêter les gens qui sont en situation irrégulière, et notamment plutôt les gens qui commettent des infractions, et notamment des crimes. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est une extrapolation de la base ou de l'idée du début, quand a été créée cette police, qui était effectivement d'aller traquer les immigrés illégaux et notamment les criminels.
L'Amérique, tu l'aimes ou tu la quittes ? Avec coutume de dire Cyril en amorçant la gâchette de son Colt 45 contre la tempe de toute personne incapable de produire une carte verte à jour, juste pour lui faire peur. Ah bah oui, mais c'est sûr que parfois statistiquement, notamment s'il y avait eu du baba au rhum à la cantine, le coup partait. Mais la plupart du temps, Cyril magnanime tendait une flûte à bec à l'immigrant en situation irrégulière. S'il parvenait à jouer l'hymne américain sans fausse note, Cyril lui tamponnait son titre de séjour.
Ouais, écoutez.
Trop lent !
Oh
bonjour Cyril.
Ah bah, trop long.
Vous... c'est violent.
Racontez-nous, vous qui en avez été un membre actif visiblement, la ICE, d'où ça sort ?
Voilà une enfant de George W. Bush. Les États-Unis sont traumatisés par les attentats du 11 septembre 2001. Alors, pour faire face à la menace terroriste, le gouvernement décide de renforcer sa structure de sécurité intérieure. En novembre 2002, il fait adopter le Homeland Security Act, qui mène à la suite à la création du Department of Homeland Security, le DHS. Quelques mois plus tard, le 1er mars 2003, le DHS entre en fonction. Sa première mission est de remanier les services des douanes et ceux qui veillent à l'immigration et à la naturalisation, pour donner naissance à deux nouvelles agences, dont la Immigration and Customs Enforcement, la ICE, charge à elle de s'occuper de l'application des lois à l'intérieur du territoire. Nous sommes 22 ans avant le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche.
Et alors pourquoi la mise sur pied de cette ICE ?
Eh bien parce que les États-Unis s'inquiètent des menaces pour la sécurité nationale, c'est dit comme ça à l'époque, des menaces à l'intérieur des frontières de leur pays. Une police dotée de pouvoirs très étendus et surtout des pouvoirs discrétionnaires pour surveiller, poursuivre, détenir et expulser les personnes qu'elle considère comme des menaces pour la sécurité publique ou la sécurité nationale. C'est dit comme ça. Depuis 2003, cette ICE a fait du chemin. Elle est maintenant la plus grande agence d'enquête du DHS avec environ 20 000 agents répartis dans plus de 400 bureaux dans le pays. Son budget annuel autour des 8 milliards de dollars. Et elle est devenue une arme politique au service d'un président qui détient aujourd'hui tous les pouvoirs. Pour quel danger ? La ICE peut-elle tout faire ? C'est ce qu'on va voir durant une heure.
Merci Cyril. Ketevan Gorgesani, fait important, cette ICE n'a donc pas été créée par Donald Trump, comme on pourrait peut-être le croire de loin quand on voit ce qui se passe en ce moment. Mais comment lui s'en sert ? Il s'en sert différemment de ses prédécesseurs.
Il s'en sert de façon beaucoup plus agressive, en fait, d'abord, parce que c'est vrai que pendant longtemps, ICE opérait, notamment, par exemple, s'il y avait des gens qui étaient arrêtés par des polices locales, qui finissaient en prison, en détention. Et donc là, il y avait un travail de coopération entre certaines agences locales et ICE. Là, ce qu'on voit avec Donald Trump, c'est notamment les lieux où ICE opère. Et ça, c'est vraiment une des grosses différences. C'est-à-dire que avant, voir des policiers de ICE qui débarquent chez les gens sans mandat, qui débarquent sur les lieux de travail des gens sans mandat...
Ils ont le droit aux États-Unis, c'est une société très judiciarisée. Enfin, on a le droit
Le problème, c'est ça. C'est que techniquement, on n'a pas le droit et on voit qu'il y a beaucoup de cas qui vont devant les tribunaux. Et donc ça, c'est quelque chose qui va prendre du temps. Le problème, c'est que le temps de l'arrestation et la détention de quelqu'un, c'est pas le temps du judiciaire. On le connaît, on sait que tout ça, c'est toujours le même problème.
Mais des juges peuvent contester quand même les actions.
Mais il y a des actions qui ont déjà été contestées, et notamment aujourd'hui, ce qui est fait, c'est d'essayer d'expliquer aux gens que même en étant en situation illégale, ils normalement ont certains droits, et notamment il y a aujourd'hui des gens qui distribuent des tracts pour expliquer, notamment en espagnol, quels sont les droits, n'ouvrez pas la porte s'il n'y a pas de mandat et comment faire ça. Mais on voit par exemple que ICE aujourd'hui opère notamment dans les tribunaux sur des gens qui passent des procédures par exemple de demande d'asile et à la sortie de leur rendez-vous
se font
choper par ICE. Oh là là. Et c'est ça qui en fait choque la population, c'est la façon dont ils opèrent plus que l'idée générale derrière cette cette police.
Et concrètement, ces gens-là, quand ils se font choper, parce qu'on parlait du temps judiciaire et de ce qui se passe réellement, eux, ils sont tout de suite renvoyés dans leur pays, ou est-ce que là, ils sont juste...
Alors, il y a plusieurs catégories, c'est ça un peu le problème. Il y a ceux qui sont pris à la frontière, donc souvent par le CBP et pas par ICE, c'est-à-dire c'est des gens qui viennent de rentrer et qui sont immédiatement expulsés vers le Mexique, qui est quand même la partie la plus simple, parce qu'on les met dans une voiture, on les transfère de l'autre côté de la frontière et c'est fini. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a donc des arrestations, il y a ces rafles, c'est ce qu'on peut appeler une rafle. On prend les gens, on les met en détention et ensuite on voit. Il y a eu les exemples, par exemple, des Vénézuéliens qui ont été mis dans un avion et emmenés soit à Guantanamo, soit au Salvador et dans d'autres pays, sans aucune autre forme de procès. Et c'est bien là qu'il y a eu des contestations, notamment des tribunaux. Et il y en a d'autres qui restent en détention aux États-Unis. Le problème, c'est que quand on fait des rafles et qu'on arrête des centaines, des milliers de gens par jour, il y a une limite de nombre de places de détention dont disposent les autorités fédérales et notamment ICE. Et c'est à peu près, je crois, 50 000 places. Et c'est pour ça qu'on voit que le patron de ICE et le tsar de la frontière, comme il l'appelle Tom Homan, demande au Congrès de passer plus de financement pour ouvrir plus de places, parce que là, ils n'en ont plus assez.
France Inter. Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
C'est quoi cette police qui traque les migrants avec une férocité nouvelle aux États-Unis? Zoom cet après-midi sur la ICE, la police américaine de l'immigration, avec notre invitée, la journaliste spécialiste des questions internationales pour France 24 et ancienne correspondante à la Maison-Blanche, Ketevan Gorgestani. Ketevan, on parlait un peu entre nous hors antenne, et vous nous expliquez qu'il y a des villes sanctuaires aux États-Unis qui donc peuvent s'opposer, si j'ai bien compris, à ICE, ou en tout cas ne pas aider le pouvoir fédéral. Comment ça se passe? Il faut peut-être faire un petit dézoom sur comment ça fonctionne les États-Unis. C'est un État fédéral, cette ICE, c'est au niveau fédéral, ça s'impose à chaque État, ou les États ont donc leur mot à dire?
Les États ont leur mot à dire dans le sens où, en fait, ce qu'il faut voir dans une ville sanctuaire, c'est que, du coup, on va opposer ou mettre sur le même plan, dans la même ville, des agents fédéraux, donc par exemple les agents de ICE, avec par exemple une police locale de la ville dont on parle. Et certes, les policiers ne peuvent pas empêcher ICE d'intervenir, donc ils peuvent pas se mettre en blocage de ICE, mais en revanche, ce que certaines villes ont passé pour essayer de protéger justement ces communautés où il y avait beaucoup d'immigrés, et notamment des immigrés potentiellement illégaux, c'est de dire, nous, on va soit limiter très fortement, soit totalement interdire la coopération entre les forces locales et les forces fédérales, et donc dire, vous voulez venir arrêter les gens,
débrouillez-vous
tout seul, nous, on ne vous communiquera pas d'informations pour savoir où ils sont, on ne vous donnera pas d'aide logistique, et donc voilà.
C'est ce qui se passe en Californie.
C'est exactement ce qui se passe
mais
en
pas
Californie,
seulement.
Mais pas seulement. Il y a, je pense, si je ne me trompe pas, une douzaine d'États sanctuaires, et il y a aussi des villes sanctuaires, parce que, par exemple, on peut avoir un État républicain avec une ville très démocrate qui peut jouer sur sa police à elle et dire, bah, nous, on va faire le moins possible pour vous aider.
Ça représente combien d'hommes, qu'on ait une idée quand même, ICE. Aux États-Unis, ICE, juste cette police migratoire?
Alors ICE, ils sont, il me semble, environ 21 000 agents, mais ensuite il faut regarder à l'intérieur de ICE, je crois que c'est à peu près moitié-moitié, il y a les agents de ERO qui sont vraiment le enforcement, donc la partie application et arrestation, donc ils ne sont pas tous, il y a une partie investigation, c'est-à-dire chercher par exemple les criminels, chercher dans les database avec les numéros de sécurité sociale, tout ça. Et il y a une partie vraiment maintien de l'ordre ou arrestation. Mais dans l'ensemble, ICE, c'est environ 21 000 agents. Et encore une fois, là, ce que les autorités et l'administration Trump essayent de faire, c'est d'essayer d'augmenter, parce que quand on veut arrêter 3 000 personnes, ce qui est un peu le but, il faut beaucoup d'agents, parce que 21 000 sur un pays très large et avec beaucoup de gens, c'est un peu compliqué.
Pour qu'on essaie de se figurer, est-ce que nous, en France, on a un équivalent de l'ICE?
Il ne me semble pas, mais on n'est aussi pas un État fédéral, donc c'est très compliqué à comparer. C'est sûr que le ministère de l'Intérieur joue son rôle sur la partie immigration, mais il n'y a pas de distinction. En fait, la police peut opérer des contrôles d'identité et il y a aussi les douanes, mais ils sont tous sous le même sous la même autorité, si je puis dire.
Vous nous parliez du fameux tsar des frontières, Tom Homan. C'est lui qui avait théorisé sous la première présidence de Trump la séparation des enfants étrangers avec leurs parents, qui avait même choqué Melania Trump elle-même. On sait si lui, il a toujours l'oreille du président et si ça.
Alors, il y a plusieurs personnes dans l'orbite de Donald Trump qui sont très focalisées sur la question de l'immigration. Il y a Tom Homan, mais il me semble que c'était plutôt Stephen Miller qui était à l'origine de la séparation des enfants. Enfin, je pense qu'ils sont assez d'accord sur ce sujet. Tom Homan, aujourd'hui, il est le tsar des frontières, comme on l'appelle. Il y a le chef de ICE, il y a Stephen Miller, et tous ces gens sont vraiment sur une ligne. C'est pas seulement, et c'est là où le message est en train de changer, c'est-à-dire qu'on n'est pas seulement en train de parler d'immigration illégale. On est en train de parler
d'immigration
tout court, parce que certes, ils ont bien réduit les entrées illégales à la frontière mexicaine, par exemple, mais en même temps, ils limitent très fortement le droit d'asile. Ils enlèvent les temporary protected status, qui est un autre système qui était pour des pays comme Haïti, comme le Venezuela, des gens qui sont venus légalement et aujourd'hui on leur dit bon bah dans deux semaines votre temporary protected status il n'existe plus, donc vous allez devenir illégaux. Et on essaye en gros de limiter toute forme d'immigration et pas seulement l'immigration illégale.
Et vous, comment vivez-vous ce qui se passe aux États-Unis où les immigrés tremblent devant le ICE, la police fédérale de l'immigration qui fait du zèle entre les mains de Trump? Quentin, qui n'a jamais foutu les pieds aux États-Unis, était l'homme de la situation pour vous interroger sur le sujet.
Mais la distance n'empêche pas d'observer l'actualité qui raconte quelque chose. Enlevez vos œillères de privilégiés et venez avec moi maintenant.
Ma première. Si vous m'appelez encore une fois maintenant, en revanche, vous savez où vous finirez l'année prochaine.
Avec Quentin. Marie de Brouwer
avec Marie, elle restera, mais vous, non.
Ma première rencontre, c'est cette bande d'étudiants qui se pointe devant moi. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que je peux avoir vos prénoms ?
Mewen.
Neva.
Méline.
Vous avez quel âge ?
19.
17.
19.
Allez, est-ce qu'ils ont vu passer...
ICE.
C'est quoi ? C'est dans l'actu.
C'est la force employée par Donald Trump, c'est ceux qui vont déporter les gens. Enfin, c'est la police migratoire, quoi.
Bravo. Elle suit l'actu. Vous l'aviez, les autres, ou pas ?
Non.
Je n'avais pas la moindre idée.
Ah oui. Et voilà, alors je demande à cette jeune femme de 19 ans pourquoi elle s'est arrêtée sur cette actualité en particulier.
Ah, parce que c'est quand même hyper important en ce moment et c'est un moment dans l'histoire des États-Unis qui est juste un virage à l'extrême droite terrible et c'est pas une. Enfin, la manière dont il déploie cette force, justement, ICE, fait polémique sur le fait que c'est pas vraiment démocratique du tout et qu'il y a juste des kidnappings de personnes sans papier qui. N'ont pas ensuite le droit de revoir leur famille, etc. Enfin, c'est juste des enlèvements arbitraires. Il n'y a pas de procès, il n'y a pas de chance pour s'expliquer, il n'y a pas d'explication raisonnable pour emmener des personnes qui ont fait toute leur vie aux États-Unis et qui, par hasard, ont des origines autres.
J'aborde cette femme maintenant. Brushing impeccable, lunettes noires rectangulaires. Comment s'appelle-t-elle ?
Florence.
Vous avez quel âge, Florence ?
J'ai 65 ans.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?
Je suis mère de famille et retraitée.
Elle aussi a entendu parler de cette police de l'immigration de Trump, la ICE.
Oui, bah oui, j'en entends parler. J'ai vu le sénateur qui s'était fait pas ligoter, mais menotter, celui qui voulait protester contre justement l'expulsion de tous les migrants et même certains qui étaient là depuis très longtemps et qui avaient un travail.
Elle me dit que c'est important néanmoins d'avoir une politique migratoire.
Oui, bah oui, on en a besoin. On en a besoin de la politique migratoire, mais contrôlée. Mais pas à l'excès comme la pratique Trump. Parce que Trump, c'est on barricade toutes les frontières, on veut plus personne.
Alors la question, ce serait quoi la politique migratoire idéale ? Elle répond pas d'amalgame, et je reprends ces mots, entre ceux qui travaillent, qui s'intègrent, et les autres.
Je travaille pour le Secours catholique et toutes les semaines, je vois tous les migrants qui arrivent. Je vois beaucoup d'OQTF, mais ils ne repartent jamais. Et ce sont des personnes qui sont pratiquement à la rue et qui ont quand même des aides de l'État. Voilà. Mais ce sont des personnes qui ne contribuent pas à l'économie, qui ne font rien pour la communauté. Et voilà.
Il faut les renvoyer ?
Faut les renvoyer presque, oui. Enfin, je sais pas. On peut pas garder tout le monde.
On peut pas garder tout le monde. Une phrase qu'on entend souvent dans ce genre de débat. Ma dernière rencontre, c'est ce monsieur, polo bleu marine, pantalon bleu, ceinture marron, qui coupe la taille. J'aime bien. Bonjour.
Bonjour.
Quel est votre prénom ?
Serge.
Serge, vous avez quel âge ?
47 ans.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous ?
Je suis responsable d'équipe chez SNCF.
Je vous fais lire un mot.
En français ?
Non.
Ah, ice, oui. Ce que je pense, c'est que le début, voilà, aux États-Unis, mais bon, je pense qu'en Europe aussi, ça existe, hein, c'est pas qu'aux États-Unis.
Alors, en France, on n'a pas de police migratoire.
On l'a pas, mais je connais des cas de personnes qui se font arrêter parce qu'ils sont sans papier et qui sont mani militari, renvoyés chez eux, voilà, séparés de leur famille, hein, en France aussi.
Je demande à Serge de me parler de ce genre de cas, s'il a pu assister à ce type d'arrestation.
Moi, je connais des personnes qui étaient sans papier, hein, en fait, en France. Et qui, voilà, après un contrôle dans la rue, voilà, par la police, se font arrêter et ils vont tout de suite dans des centres de rétention qui sont, je pense, pas loin de l'aéroport directement, qui sont quelques jours après dans un avion accompagné de la police française jusqu'au pays. Donc en l'occurrence là c'était le cas du Cameroun, donc jusqu'au Cameroun. Je pense qu'elle existe déjà, c'est juste qu'elle ne s'appelle pas la ICE. Hein.
Aux États-Unis, la ICE a un badge, une casquette, une méthode. Chez nous, pas de nom officiel, mais les contrôles qui s'intensifient et les discours qui se durcissent et les taux qui se referment. L'Amérique trace la ligne, on la suit souvent sans toujours oser l'avouer.
Merci Quentin, merci pour ce petit point mode casé oui. En plein milieu d'un micro-trottoir quand même assez,
il aime bien les
assez lourd de sens.
J'aime décrire les gens.
Ketevan Gorgesani, est-ce qu'il a raison Serge, est-ce qu'il faut comparer, dire que nous on n'a pas ICE, on n'a pas cette police de l'immigration en France, mais que l'étau se resserre autour des immigrés, des sans-papiers, est-ce qu'on a raison de faire cette comparaison pour faire attention à ce qui pourrait se passer chez nous, ou est-ce que c'est excessif, ce qui se passe aux États-Unis est quand même d'une autre nature ?
Je pense qu'on que les deux choses peuvent être vraies en même temps. C'est-à-dire qu'effectivement, l'étau se resserre, les paroles se durcissent sur la question de l'immigration en France. De là à comparer ce qui est en train de se passer aux États-Unis et en France, je pense que c'est un peu, en tout cas, à l'heure où on parle, c'est un peu excessif parce que d'une part, par exemple, la personne que vous interviewez parlait d'être renvoyée chez soi. C'est différent d'être renvoyé dans son pays d'origine que d'être renvoyé dans un centre de détention de haute sécurité au Salvador quand on est cambodgien. J'exagère un peu parce qu'ils n'étaient pas cambodgiens, ils étaient vénézuéliens, donc on reste dans le même continent. Hein.
Et c'est pas chez eux, quoi.
Mais par exemple, il y avait aussi la possibilité, alors ça a été, il me semble arrêté, mais je suis même pas sûr, d'envoyer des gens qui venaient du sud-est asiatique, donc il y avait des Cambodgiens, des Laotiens, des Vietnamiens, en Libye.
Ah oui.
Quel est le rapport, en fait? Donc, et tout ça, c'est sans OQTF, c'est sans autres formes de procès, c'est sans possibilité de prouver que potentiellement on a des papiers ou on est en voie d'avoir des papiers. C'est là qu'il y a un vrai problème, c'est le côté sans passer par la case justice, notamment par exemple les Vénézuéliens qui ont été envoyés à Cicotte, qui est cette prison de haute sécurité où les Salvadoriens disent la seule façon d'en sortir, c'est dans un cercueil. Ça donne un peu l'idée de la chose. C'est des gens qui ont été accusés d'être membres de gangs vénézuéliens et qui n'ont pas le droit de prouver que peut-être ils n'appartiennent pas à ces gangs. Et notamment, il y avait le cas de cet homme qui avait un tatouage, notamment un tatouage du Real Madrid, donc avec la couronne, qui s'apparentait soi-disant à des tatouages de gangs. Donc on est dans un système où si on peut vous juger sur un tatouage sans que vous ayez le droit de prouver potentiellement que ce n'est pas le cas.
Faut que je fasse effacer mon droit au but sur la fesse gauche alors si je vais aux États-Unis. Quentin.
Mais peut-être que en France on ne laisserait pas faire ça. Ces images là qu'on voit, ces méthodes, ces raids très violents qu'on peut voir aux États-Unis et les histoires que vous êtes en train de nous raconter terribles. En France, les gens se manifesteraient, vous pensez?
J'espère. Je ne sais pas. Il y a une chose quand même qu'on commence à voir, c'est qu'aux États-Unis, alors certes, la majorité de la population est pour un durcissement des règles d'immigration. Ça, c'est clair et net. Donald Trump a été élu là-dessus et il n'y a pas que des super magas qui sont pour un durcissement de l'immigration. En revanche, ce qu'on voit dans les sondages depuis quelques temps, c'est qu'il y a une chute du soutien à la façon dont c'est opéré. Parce que à la base, le message, c'était « nous allons fermer les frontières, ça passe très bien, il n'y a aucun problème ». Deuxième chose, c'est nous allons aller chercher les criminels, les violeurs, les meurtriers, et c'est eux qu'on va aller chercher. Les gens n'étaient pas du tout pour aller chercher le père de famille qui est là depuis 30 ans, qui paye ses impôts, qui a un enfant américain, une femme américaine, et qui vit au milieu d'Américains depuis des décennies. Et donc là, on est en train de voir quand même une chute dans les sondages de gens qui disent « oui ». Pour réduire l'immigration, mais non pour le faire de cette manière-là.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Nous sommes dans le sud de la Californie, au deuxième jour du stage de l'agent La Carrière. Une mise à niveau pour son affectation à la frontière mexicaine dans le cadre de l'opération Run Chico Run, à la reconduite à la frontière des migrants mexicains voulue par le président Bush. Après une journée de réunion PowerPoint dédiée à la détection du bouffeur de tortillas en situation irrégulière, Cyril est à l'agonie dans la salle de réunion Chuck Norris. La climatisation est en panne et ayant un peu forcé sur le mezcal au bar La Fruta Magica, son front sent l'agneau, les forces à transpirer, ses yeux commencent à piquer, ce qui lui jouera un tour cruel durant l'épreuve pratique durant laquelle il attrapera non pas le migrant mais l'instructeur au lasso. Caramba, encore raté, sera la leçon qu'il tirera de cet événement. Ce Zoom Zoom Test sur les petites histoires de l'immigration lui est dédié. Direction tout d'abord l'Écosse du 19e siècle. Glasgow est en ébullition. Comme tous les citoyens de la ville en quête d'aventure et de fortune rapide, Cyril Mac La Carrière se prend à rêver devant une affiche publicitaire. On peut y lire que le Poyes, petite colonie britannique coincée entre le Nicaragua et le Honduras, a besoin de bras pour développer ses incroyables ressources minières. Là-bas, l'or vous tomberait littéralement dans les mains. Mac La Carrière est tellement excité que d'un geste sec et discret, il est obligé de réajuster son kilt. Reste calme, petite cornemuse, se dit-il en son fort intérieur. Comme lui, beaucoup d'Écossais vont tomber dans le panneau et s'embarquer pour le Poyes. Car une fois sur place, ils vont découvrir que le Poyes était également le territoire des Akuma, une tribu anthropophage qui va se délecter des nouveaux arrivants. Ils vont découvrir que le chef de la colonie est en fait un escroc qui leur a piqué leur pognon. Ou ils vont découvrir que le Poyes n'existe tout simplement pas et ils vont débarquer dans la jungle et mourir.
C'est...
Vous faites un suspense,
je
là.
Je sais pas, non, j'essaie de vous orienter. Il y a peut-être plusieurs bonnes réponses.
ABC ? Non, A et C.
Bon, c'est une très mauvaise réponse. C'était les réponses B et C. Derrière cette arnaque à l'immigration, un individu encore pire que Quentin. Je vous présente Gregor MacGregor, un filou. Il s'appelle vraiment comme ça.
Il était malin, ses parents.
Un filou qui a donc inventé un pays, allant jusqu'à en dessiner la carte, créer une monnaie et émettre de faux emprunts d'État de cet Eldorado, tout en se présentant évidemment comme le responsable de cette supposée colonie britannique. Après avoir encaissé l'argent, pour avoir parlé bons d'État et le voyage, il va remplir 7 navires de candidats à la fortune, les débarquer et les laisser crever de faim dans la jungle. Il se fera griller des années plus tard par les autorités françaises, dubitatif face à des demandes de passeport pour un pays qui n'existait pas. Par chance, Mac La Carrière ne fit pas partie des victimes, car le jour du départ, il était cloué au lit avec une vilaine syphilis. Il avait encore trop joué de sa petite cornemuse. Mais attention, gai savoir toujours. Direction la République tchèque. Oui, c'est une musique russe, mais après tout, c'est à quoi ? 5000 km à peine. Ouverte sur le monde, mais à cheval sur les règlements, la Tchéquie accueille les réfugiés LGBT qui fuient les 76 pays pénalisant les minorités, mais à la condition qu'ils puissent justifier de leur homosexualité. D'après vous, Manon Quentin, comment les autorités tchèques s'y prennent-elles pour vérifier l'homosexualité des candidats à l'immigration ?
Je crains le pire.
En consultant leur historique de navigation pour vérifier s'ils fréquentent bien les mêmes sites que Pierre Courade ? En leur faisant un blind test spécial Mylène Farmer ? Ou en testant leur réaction devant un film porno ?
C'est avant.
Ah oui,
je crois que c'est avant.
Vous pensez vraiment qu'on leur, on les installe dans une salle et c'est une bonne réponse de Quentin, lui qui a été plus rapide. Oui. Ouais. Vous faites une demande d'asile parce que vous êtes gay, mais prouvez-le. Hop, 5 minutes du dernier film de Adé Laurent. Si vous hissez le pavillon, c'est gagné. Bienvenue en République tchèque. Si en revanche vous restez insensible, c'est perdu. Un test de phallométrie, heureusement condamné, je vous rassure, par la Cour de justice de l'Union européenne en 2014. Je parlais au présent, mais cette procédure n'existe plus. Au grand dam de Pierre Courade qui se réjouissait de s'y soumettre lors de ses prochaines vacances à Prague. Mais retour aux États-Unis, car retournement de situation, Cyril bénéficie d'une ultime chance. chance pour rester au FBI en tant que maître nageur. Là, au moins, il pourra pas merder, se disent ses supérieurs qui, décidément, connaissent mal le loustic. Car dès son premier jour à la plage, Cyril va faire étalage de son talent. En effet, même s'il pique un peu du nez à cause des 7 donuts, cookies and cream qu'il s'est envoyé au petit-déj, il aperçoit soudain un clandestin cubain en passe de se noyer. Pauvre bougre, il a beau être communiste, il n'en est pas moins un homme. Un hombre, comme on disait à la frontière mexicaine. Ni une ni deux, mais trois, parce que Cyril était en jean, il avait oublié d'enfiler maillot de bain. Le voilà qui se précipite vers les flots dans son moule burn rouge floqué FBI sur les fesses. Vous avez l'image. Mais alors qu'il s'apprête à secourir le cubain, Cyril va soudain se rappeler de ce que dit le droit américain. C'est pourquoi, au dernier moment, Cyril arrache une bouée licorne à un gosse, fout le migrant cubain dans la bouée et le propulse d'un grand coup de pied vers le large en hurlant « Hasta la vista, baby !» Pourquoi ? Est la question que tout humaniste est en droit de se poser.
Les bonnes refs.
Parce qu'un cubain qui pose le pied sur le sol américain devient américain. Ou parce qu'un cubain qui est récupéré en mer reste cubain. Ou parce que c'est quand même cool, une bouée licorne.
B. B.
Je vous propose une autre réponse.
Ah,
je vous propose une autre réponse.
Les trois,
Quentin, ouais. Mais quel génie,
ouais,
mais
quelle licorne, quel c'est un gars.
Quelle connaissance.
C'est un gars,
bah oui.
C'est-à-dire, c'est un gars. Je vais en acheter une pour l'été.
Ah, bon.
Ouais, voilà.
Mais quand on a des enfants, ça
non,
passe.
Non, j'allais dire, c'est QFD, c'est rien. Les c'est trois, vrai. Effectivement, du gai savoir en concentré avec la règle américaine du pied sec, pied mouillé, wet feet, dry feet en anglais, qui c'est a perduré
pied mouillé,
jusqu'à son abolition par l'administration Obama. Elle consistait donc à offrir un permis de résidence aux Cubains ayant réussi à poser le pied sur le sol américain, pied sec, alors que ceux récupérés en mer, pied mouillé, étaient expulsés vers Cuba. Ah, ça, c'est le gai savoir sa plus pure essence.
J'ai pas écouté.
Victoire de Quentin. Vous n'avez pas écouté. Mais c'est un scandale, Manon.
Sens. J'ai appris un truc. D'accord.
Eh, mais, c'est la première fois en
dans le quiz, oui, effectivement.
L'ancienne
correspondante.
Oui, je sais que c'est Quentin qui a gagné, je l'ai dit. On me parle en régie. Quentin, vous avez gagné le quiz.
Merci à tous.
On va pas en faire un fromage non plus. Vous obligez notre invité à vous applaudir.
Gêné.
L'ancienne correspondante à la Maison-Blanche et spécialiste des questions internationales pour France 24, Kate Evan Gorgestani, est toujours avec nous pour décrypter la politique anti-immigration de Donald Trump et en particulier sa police chargée d'appliquer cette politique, la ICE. Ce qui caractérise cette ICE, c'est sa particulière brutalité, c'est en tout cas ce qu'on constate depuis que Trump est là. Comment ça se passe? Elle a quasi carte blanche dans ses méthodes? Elle prend ses ordres directement de Donald Trump?
Elle est sous l'autorité de l'équivalent du ministère de l'Intérieur, du DHS, Department of Homeland Security. Et la question, c'est justement aujourd'hui, c'est d'une part, les choses se passaient avant sous des présidents précédents, c'était beaucoup moins mis en scène. Parce que ce qu'on a vu avec Donald Trump, c'est quand même, dès le début, on a filmé, on a fait des vidéos sur les réseaux de la Maison-Blanche pour montrer ces criminels avec leurs menottes dans l'avion, renvoyés je ne sais où. Ils ont même quand même, la Maison-Blanche a même quand même posté une vidéo ASMR, d'expulsion d'immigrés. Ah, je ne rigole pas, c'est absolument vrai. Donc on est sur une mise en scène
complètement assumée,
de montrer que on vous a dit qu'on s'occuperait de l'immigration et on s'en occupe et on vous le montre visuellement avec des images très très choquantes pour certains et assez agréables il semble pour d'autres.
Mais concrètement, c'est quoi leur méthode pour traquer les migrants de la ICE? Parce qu'à un moment j'avais fait une chronique sur les passeurs de migrants qui faisaient des vidéos sur TikTok pour inciter justement les migrants à payer et à passer la frontière. Ils vont sur les réseaux aussi la ICE pour traquer des gens?
Oui, et ils vont et on en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que ils vont dans des endroits où ils savent qu'il y aura probablement beaucoup d'immigrés et donc potentiellement des immigrés illégaux. Donc les fermes où je crois que c'est le chiffre, c'est plus de 40% des gens qui travaillent dans les fermes sont des sans-papiers. Ils vont dans des communautés, dans des quartiers où il y a beaucoup de latinos par exemple ou beaucoup d'asiatiques. Ils vont dans des lieux de travail où on sait qu'il y a des communautés immigrées.
Mais est-ce que ça se retourne pas contre Donald Trump? Parce que là sur les fermes, on en parlait tout à l'heure en antenne, et les propriétaires de fermes, ils se rendent compte qu'ils vont pas remplacer la main d'œuvre aussi facilement. Donc
Exactement. Et cette dernière semaine, on a vu une sorte de passe d'armes. Il y a eu dans les médias américains beaucoup d'articles sur le fait que la ministre de l'Agriculture a appelé Donald Trump pour lui dire là ça commence à chauffer pour nous parce que les fermiers sont pas contents. C'était pas que les fermiers, c'était les usines d'abattage de viande, tous des endroits où il y a beaucoup d'immigrés et donc aussi des clandestins. Et on a vu Donald Trump sortir, je crois que c'était sur un post sur Truth Social pour dire il faut qu'on s'occupe un peu mieux des fermes parce que c'est des gens très bien qui sont là depuis très longtemps, qui travaillent dur. Et on a vu un mail qui a été envoyé à ICE pour leur dire « Oh là, on met une pause sur les raids dans les fermes, dans ces endroits très ruraux où il y a des électeurs de Donald Trump. » Mais il y a des gens qui n'étaient pas très contents, notamment des Stephen Miller, parce que Monsieur Miller, lui, il veut qu'on arrête au moins 3000 personnes par jour
pour atteindre
le quota de 1 million d'expulsés d'ici la fin de l'année. Pour ça, il faut aller là où il y a le plus grand nombre d'immigrés. Et donc, il semblerait qu'on soit revenu à... Vous êtes autorisé à aller sur les fermes et à faire des raids.
On parle beaucoup de Trump depuis le début de l'émission, et néanmoins, j'ai lu aussi que l'administration Biden a expulsé 270 000 personnes en 2024, soit plus que Trump sur l'ensemble de son premier mandat. Il y a aujourd'hui une forme de convergence entre démocrates et républicains sur la politique migratoire.
Mais je crois que c'est là encore où on en revient au fait que les démocrates, ils ont eu un problème de message, notamment sur la question de l'immigration, ils ont eu un problème sur la frontière, plus que sur le fait d'arrêter des sans-papiers et de les expulser. Parce que comme vous l'avez dit, les chiffres le montrent, c'est que sous Biden, ça s'est pas arrêté. C'est juste que déjà, on faisait pas des vidéos ASMR des expulsés. Deuxièmement, il passait notamment par certaines étapes de procédure judiciaire pour dire, bon, bah là, ça y est, vous avez éclusé toutes les opportunités que vous pouviez avoir. On a décidé que vous ne méritiez pas de rester aux États-Unis, donc on vous expulse.
Il y avait un processus.
Il y avait un processus. En général, on les renvoyait quand même plus ou moins dans leur pays d'origine. Donc, ce que Donald Trump a fait par rapport au premier mandat, c'est de se dire, oui, mais en fait, moi, je veux qu'on en expulse plus. Donc, c'était l'idée qu'on va y aller plus fort, plus vite. Comment on fait pour aller plus fort et plus vite? Eh ben, on enlève toutes les barrières, c'est-à-dire les tribunaux, le droit, les droits des gens, même s'ils ne sont pas citoyens américains.
Vous écoutez France Inter, il est 16h47. L'heure de découvrir la personne à suivre, Manon.
Oui, je vous présente Gavin Newsom. Il a 56 ans, il est américain et c'est le gouverneur de Californie. Il commence sa carrière à San Francisco, dont il devient le maire en 2004. Très vite, il se fait remarquer parce que cette année-là, il autorise les premiers mariages homosexuels en Californie, alors même qu'ils sont encore interdits au niveau fédéral. Un geste fort qui lui vaut forcément autant de soutien que de critiques. Puis en 2019, il devient donc gouverneur de Californie, l'état le plus peuplé, le plus influent du pays. Il est défend des positions progressistes, le droit à l'avortement, la transition écologique, l'accueil des migrants, l'accès à la santé. Il cultive une image de gouvernant assez moderne, pro-business, mais attaché aux valeurs de la gauche. Il débat à la télé avec Ron DeSantis, gouverneur ultra-conservateur de Floride. Il multiplie les déplacements, les prises de parole. Il se positionne petit à petit comme une figure nationale du Parti démocrate. Après, certains lui reprochent aussi des ambiguïtés, notamment un discours parfois en décalage avec des politiques locales répressives sur les campements des sans-abri. En 2024, par exemple, il a ordonné le démantèlement de certains campements, ce qui lui a valu beaucoup de critiques. Ses détracteurs lui reprochent aussi des tentatives maladroites de tendre la main aux électeurs républicains, comme quand il fait un podcast avec Charlie Kirk, soit l'un des influents les plus conservateurs et les plus populaires du moment aux États-Unis. Mais si on parle de lui depuis le début du mois, c'est pour son positionnement contre la politique anti-immigration de Donald Trump et notamment contre les raids de l'ICE qui font rage à Los Angeles. Le 10 juin, il fait un discours où il critique ouvertement les méthodes du président américain.
Democracy is under assault before our eyes. This moment we have feared has arrived.
La démocratie est attaquée sous nos yeux. Ce moment que nous redoutions est arrivé. Il l'accuse d'avoir déployé plus de 2000 gardes nationaux et 700 marines à Los Angeles pour contenir les manifestations qui ont lieu actuellement. Des milliers de personnes dans la rue contre la politique migratoire de Trump qui brandissent le drapeau mexicain en guise de soutien aux migrants. Gavin Newsom a attisé la fureur de Donald Trump qui menace même de le faire arrêter. Newsom lui a répondu en disant « Arrête-moi, viens me chercher ». Le combat de coq ne fait que commencer. Surtout que pour beaucoup de commentateurs politiques, Gavin Newsom serait le candidat démocrate parfait aux prochaines présidentielles. À voir où il sera dans 3 ans, car on le sait, Trump ne fait pas de cadeaux à ses ennemis.
Merci Manon Ketevan-Gorgesani. Vous le voyez, président, en tout cas en lice pour l'élection, ce Gavin Newsom ?
En lice, certainement. En tout cas, c'est ce que tout le monde pense, c'est-à-dire qu'il se prépare à être un des candidats démocrates pour 2028, et il s'en cache très faiblement. Donc, il n'y a pas de. Après, est-ce qu'il peut gagner ? Il y a quand même, et vous l'avez rappelé, pas mal de choses sur lesquelles il a été critiqué. Il est d'un côté vu comme étant le gouverneur woke de la Californie, qui est l'État woke par excellence. Donc pour les indépendants, c'est pas nécessairement ce qui marche le mieux. Et côté progressiste, on lui reproche parfois certaines positions qui sont un peu trop centristes. Donc est-ce que c'est le meilleur candidat ? Je suis pas sûre que ça soit clair tout de suite, en tout cas.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Lui, il connaît bien les États-Unis. Il connaît d'ailleurs tous les pays du monde puisqu'il est, comment dire ça Manon ?
Chiant ?
Le mot que je cherchais était globetrotter. Mais il y a du vrai. Il y a du vrai dans ce que vous dites. Il y a du vrai. Pierre Courage, chaque après-midi, après avoir recompté les petits drapeaux sur votre profil Instagram en vous disant que décidément vous en aviez vu des pays et tant pis pour le CO2, vous nous résumez tout ce qu'on s'est dit dans cette émission en une minute chrono.
Et encore, il en manque des drapeaux. On a parlé de la ICE aujourd'hui malgré la chaleur. La ICE, c'est la Immigration and Customs Enforcement, la police de l'immigration aux États-Unis. À l'origine, elle est en charge d'enquêter et le cas échéant d'expulser tout étranger soupçonné de menacer la sécurité du pays. Mais avec le retour de Donald Trump en janvier dernier, son rôle s'est élargi. Elle n'est plus là pour traquer seulement les délinquants. Elle est en charge d'arrêter et d'expulser tous les clandestins du pays. Promesse de campagne. La ICE devient ainsi le bras armé de Trump pour mettre en place sa politique migratoire. Notre invitée, la journaliste Ketevan Gorgestani, parle de rafle parce qu'en plus d'une politique migratoire critiquée par une partie de la population américaine, ce sont les méthodes agressives de la ICE qui mettent en colère des villes entières comme Los Angeles où Donald Trump a envoyé la garde nationale pour mater la protestation de la population. Des villes et des États démocrates freinent aussi le travail de la ICE, on les appelle des villes et États sanctuaires. En cause, des arrestations musclées, des descentes dans des endroits où peuvent se retrouver des étrangers, jusque sur leur lieu de travail, quitte à passer outre le cadre législatif. Et les critiques commencent aussi à se faire entendre dans les propres rangs du président américain, notamment dans le secteur agricole, où les sans-papiers représentent plus de 40% de la main-d'œuvre. Les expulsés manu militari seraient une catastrophe politique pour Donald Trump et économique pour les États-Unis. Et comme il n'y a que l'argent qui compte pour Trump, c'est son point commun avec Quentin Lui parmi d'autres, peut-être que ça le fera réfléchir et qu'il reviendra sur sa politique migratoire. Malheureusement, la réflexion chez Trump, c'est encore étranger.
Oh, jolie fin. Merci Pierre. Peu de vannes, mais beaucoup de fond, une belle synthèse, hein, comme souvent. Merci beaucoup Pierre Courade. Et puisqu'il faut bien qu'on entende à un moment quand même un vrai spécialiste dans cette émission, c'est maintenant au tour de GC. Je crois que ce thème lui a un peu monté à la tête.
Pardon ? Mathieu, je ferais pas trop mon malin si j'étais toi, je rappelle que t'es pas né en France. Ah là, j'ai un SMS à envoyer à l'immigration, puis tu retournes faire du yodel au pays d'Aïdis. Pardon Manon ? Oui, rigole pas trop, parce que Mariani, ça sonne pas très français non plus. Voilà, donc si tu veux pas retourner chier du pesto chez les Rital, tu te calmes aussi. Voilà. Et si vous êtes, pardon ? Et si vous êtes pas content, je vous laisserai vous expliquer avec le nouveau bureau de l'immigration chez Radio France. Voilà, dirigé évidemment par Cyril Lacarrière. Un bon nom français, comme il aime à rappeler à son ami le maréchal Pétain. Oui, Pierre, on te trouvera un petit travail là-bas, évidemment. Regardez cette fouine là, dont même Vichy a pas voulu. Franchement, tu seras chargé des déviants, ça te va hein? Comme ça, tu seras pas dépaysé. Allez, en tout cas, silence. À partir de maintenant, Zoom Zoom Zen, ça va filer droit. Hein? Et on renomme cette émission aussi. Ah. Bon, je crois que ça, tout le monde sera content. Hein? Franchement, bah, qui a trouvé ce nom de merde ?
Moi.
À partir de maintenant.
Mieux, ma femme.
J'adore.
Ça sent mauvais pour la saison.
Elle viendra au bureau d'immigration avec nous. Non, moi j'ai trouvé un meilleur nom. À partir de maintenant, ce sera gros plan, relaxation. Un nom français. Voilà. Je rappelle qu'on est une émission française par la France et pour la France. Merci. Et maintenant, on va faire une minute de silence en écoutant la plus belle chanson de tous les temps, Les Lacs du Connemara. Mais non, je rigole. Hey, je suis grave bon comédien. Je vous ai eu. C'était un personnage. Vous avez deviné. C'était un chroniqueur sur Europe 1. Vous avez deviné. Mais non, évidemment, la plus belle chanson de tous les temps, c'est Taylor Swift. Je suis toujours GC, ce gros pédoc. Mais en vrai, vous imaginez, si on était inquiété sur son lieu de travail à cause de sa nationalité ou de ce à quoi on ressemble, bon, déjà, Quentin serait plus parmi nous, hein, il serait enfin rescolarisé. Voilà. Mais t'inquiète, maintenant, le brevet, c'est en contrôle continu. Tu vas t'en sortir. Non, mais ce serait horrible, hein, genre une police spécialisée pour traquer les gens. Bon, après, ça dépend qui on traque, hein, si c'est uniquement les mecs qui disent « mais je comprends pas, il n'y a pas de pride hétéro », bon, là, Je veux bien fermer les yeux. Du coup, il faudra juste qu'on trouve un nouveau rédacteur en chef. Mais imaginez, cette police, elle serait encore plus dangereuse. Elle chasserait des humains au hasard. Comme Manon en boîte à 3h du matin. Un peu comme des braconniers, mais légal. Voilà, il faut se projeter. Ce sera un monde où on peut tuer des Mexicains, mais pas des girafes. Mais en vrai, c'est un peu drôle. Genre, pendant une soirée Old El Paso, d'avoir un gringo empaillé. Non, c'est drôle. Tu le tires sur la moustache, il pète. C'est drôle. C'est drôle. Ou au pire, on pourrait vous arrêter juste parce que vous avez une sale gueule. Ouais, je sais, Pierre, ça fait peur, mais t'inquiète, je te protégerai. Mais de toute façon, tu leur mettras tes petits pulls, là, parisiens, et alors on saura, hein. Ils sauront que t'es un danger pour personne. Et imaginez, la police, elle s'appellerait ICE. Pas SS, hein, juste une sonorité différente, comme ça, personne n'y verrait que du feu. D'ailleurs, est-ce qu'on peut juste arrêter 2 secondes sur ce nom, ICE? Enfin, j'ai l'impression que c'est des gens qui vont arriver en fourrure avec une chapka et des bounes de sa poêle, hein, et qui vont être là, stop, it's ICE, bitch. Pardon, ICE, c'est pas le nom d'une police facho, hein, c'est le nom d'une drag queen qui sort à l'épisode 2. Mais malgré son nom, elle ferait peur, cette police. Elle déporterait des enfants et des vieillards. Du coup, on devrait dire au revoir à la moitié de cette table. Bon, heureusement, tout ça n'est pas réel. Mais non, c'est pas réel. C'est pas comme dire que Mathieu est journaliste. C'est une projection. Hein. En tout cas, si ça arrive un jour, le fascisme, hein, pas que Mathieu se mette enfin à bosser, j'espère qu'on aura le courage de se mobiliser, hein, et qu'on ne sera pas là, hop, tant que ça arrive aux autres.
Une grosse prise de risque sur cette chronique. On vous retrouve la semaine prochaine ou pas dans Zoom Zoom Zen. Et vous reprenez votre spectacle à Paris en septembre, mais on a le temps d'en parler, hein, aux Zèbres de Belleville. En tout cas, sur icigc.com, toutes les informations. Merci Kateven Gorgestani de nous avoir briefé sur l'agence ICE qui fait régner la terreur outre-Atlantique. Merci beaucoup, on vous retrouve sur France 24.
Merci. Zoom Zoom Zen.